Mais ce que j'ai dit là sur cette relecture du prologue de Matthieu, ça me paraît très important. Et qu'est-ce qui se passera le jour où alors toutes nos professeurs, nos exégètes, là, qui sont si calés dans leurs études sur la Bible, connaîtront aussi ce que les Juifs seuls peuvent nous apprendre dans cette connaturalité qu'ils ont gardée avec la Bible. Et pour comprendre le prologue de Saint Matthieu, il faut être initié aussi bien aux méthodes exégétiques que aussi aux traditions juives. Alors maintenant, pour consoler un peu ceux qui ont fait la BST, qui attendent de ces cassettes d'avoir avec la brochure aussi de quoi classer leurs photos, mettre de l'ordre dans leurs souvenirs, ben, je rappelle l'itinéraire qu'on fait en général. On quitte Jérusalem, là, et on va aussi directement que possible vers l'Hérodium, cette forteresse importante. Ça ressemble à un volcan, en fait ça n'a rien de volcanique, c'est tout est calcaire dans cette région, et on parle de l'Hérodium. D'abord Flavius Joseph nous aide à savoir ce qui s'est passé, hein. Hérode, ça se passe dans les années 40 avant Jésus-Christ, là. Il y a eu une invasion des Parthes à Jérusalem qui a ébranlé son pouvoir qui était appuyé sur celui des Romains, et alors je passe sur les détails. Et Hérode est obligé de s'enfuir de nuit. Il prit les devants et accompagné des personnes qui lui étaient les plus proches, partis de nuit à l'insu des ennemis pour l'idumer. Et les descendants des Asmonéens, que le père d'Hérode, Antipater, avait vidé par une révolution de palais, s'étaient alliés aux Parthes, d'où cette fuite précipitée. Les Parthes, s'étant aperçus de sa fuite, se lancèrent à sa poursuite. Hérode se mit en route, sa mère, ses sœurs, sa fiancée, la mère de sa fiancée, son plus jeune frère, lui-même avec ses serviteurs, par d'habiles dispositions, repoussa les barbares et en tua un grand nombre dans leurs diverses attaques et gagna ainsi la forteresse de Massada. Vous voyez, la route qu'on prend est une route tonisonnée par des données topographiques que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, qu'on contemple très bien du haut de l'Hérodium, une route traditionnelle encore jalonnée par des forteresses dont les archéologues vous feront l'histoire. Et elle va en direction de la source d'Engadi et puis elle franchit la mer Morte, là où c'est le plus facile de la franchir à gué, dans ce passage qui est contrôlé par la célèbre forteresse, ou ce qui deviendra la forteresse de Massada. Alors Hérode s'enfuit par cette route de Moab, cette route d'Édom. On évoquera aussi d'autres succès, d'autres souvenirs qui se situent sur cette route qu'on contemple très bien du sommet de l'Hérodium. Alors Hérode, dans cette fuite, trouva les Juifs plus incommodes que les barbares, car ils le harcelèrent continuellement et à 60 stades de Jérusalem lui présentèrent même le combat, juste à l'endroit où il a construit par la suite cette forteresse de l'Hérodium qu'on visite. Hérode fut vainqueur de ce combat qui dura assez longtemps et en tua beaucoup, et plus tard, en souvenir de sa victoire, il fonda une ville en ce lieu, l'ordonna de palais somptueux, y éleva une très forte citadelle et l'appela de son propre nom Hérodion. Et dans un autre passage, la vieille Joseph là, décrit l'Hérodium tel qu'on pouvait le voir au temps de Jésus. Une colline artificielle en forme de mamelon à 60 stades de Jérusalem reçut le nom même d'Hérode. Hérodium, mais fut embelli avec plus de recherches. Hérode entoura le sommet de la colline d'une couronne de tours rondes et accumula dans l'enceinte des palais les plus somptueux. Non seulement l'aspect des constructions à l'intérieur était superbe, mais les richesses étaient répandues à profusion sur les murs extérieurs, les créneaux et les toits. Il fit venir à grands frais de loin des eaux abondantes et assura l'accès du palais par un escalier de 200 degrés de marbre d'une blancheur éclatante. En fait, c'est du stuc. Hein. Ici, on est encore au sud de Marseille. On dit toujours la vérité, mais un temps de ses membres. La colline était assez haute et tout entière faite de main d'homme. Encore une fois, c'est une exagération. Au pied du coteau, il bâtit un autre palais pouvant abriter un mobilier et recevoir ses amis. Par la plénitude des ressources, cette enceinte fortifiée paraissait être une ville. Par ses dimensions, c'était un simple palais. Alors, quand on habite le pays, on peut s'attarder à faire de l'archéologie. Et cette forteresse de l'Hérodium, maintenant, les archéologues israéliens ont rendu accessible à l'intérieur une véritable fourmilière. C'est très intéressant de se promener là-dedans et de faire l'histoire des différentes époques qui sont succédées là, lors de Hérode le Grand, et puis lors de la première révolte en 70, et puis lors de la révolte aussi de Bar Corba. Je passe sur l'archéologie de l'Hérodium que vous trouverez dans tous les manuels d'archéologie ou les guides de pèlerinage. On a l'occasion aussi, depuis l'Hérodium, de parler du Wadi Karitoun, de la vie monastique dans le désert. Il y a un célèbre Wadi, là, et on y évoque un des ermites du désert les plus célèbres, Saint Kariton. et en face un fonctionnaire du consulat de France en 1928, là, un certain Neuville a découvert des grottes de Umm Qatafa, 7 niveaux de civilisation, dont le plus ancien relève du paléolithique moyen, c'est-à-dire 30 000 ans avant Jésus-Christ, selon le célèbre Albright. Bon, je passe sur tout ça. Mais alors, peut-être au point de vue biblique, ben, on voit d'abord le village d'où est originaire Amos, qu'on a rencontré plusieurs fois. On voit comment il partageait son temps entre l'agriculture, il est à la frontière du désert et de la zone fertile, et il cultivait des sycomores, et puis en même temps, il était pasteur. Amos, qu'on a rencontré à Bethel, et puis dont on a eu l'occasion de lire les textes par-ci, par-là. Alors sur cette route, qu'est-ce qu'on pourrait encore évoquer? Eh bien, on pourrait évoquer, d'abord c'est la route de Moab, hein, c'est la route d'Édom. On pourrait évoquer là, dans le livre de Ruth, là, Noémie, c'est par là qu'elle a dû partir avec son mari Elimelech, ses deux fils Parlon et Kilion, vers les terres de Moab. C'est intéressant de remarquer, quand il y a une famine à Bethléem, on va non pas du côté de la Méditerranée, hein, on traverse le désert, on traverse la mer Morte, et puis on va dans le pays de Moab, de l'autre côté. Et les nuages qui ne se condensent pas au-dessus de la dépression de la mer Morte, là, se condensent de nouveau sur les montagnes de Moab, qui sont plus élevées que les montagnes de Juda. Et là, il y a une zone de fertilité qui va très loin vers le sud, presque jusqu'aux environs d'Elat. Et on peut imaginer aussi revenant, pas Noémie, avec Ruth. On a parlé du livre de Ruth tout à l'heure. Et David, c'est à noter, bah, lorsqu'il commence sa vie errante, poursuivi par la jalousie pathologique de Saül, eh bien, il part aussi par là mettre sa famille à l'abri. C'est raconté au chapitre 22 du premier livre de Samuel. David, qui s'était d'abord réfugié à Adullam, du côté de l'ouest, il se rendit à Mitzpé de Moab. Et il dit au roi de Moab, « Permets que mon père et ma mère restent avec vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera pour moi. » Il les laissa chez le roi de Moab et ils restèrent avec celui-ci tout le temps que David fut dans le refuge. Vous voyez, c'est intéressant de voir que David se souvient de ses origines moabites, que Ruth était son ancêtre. Et alors il y a aussi, puisque vous voyez, on joue la Bible sur le terrain, dans le livre des Chroniques, on avait eu beaucoup l'occasion de le voir, il y a une guerre sainte qui est racontée au chapitre 20 du deuxième livre des Chroniques. Les Moabites et les Ammonites accompagnés des Méhounites s'en vont combattre Josaphat, le roi Josaphat. Alors une foule immense s'avance d'au-delà de la mer d'Édom, et la voici à Hatzatson Tamar, c'est-à-dire à Engadi, oui, la route qui va vers Engadi. Alors Joab, Josaphat prit peur, il y a une grande cérémonie liturgique là-bas, et puis on part en guerre, et tous les Judéens se tenaient debout en présence de Dieu, etc. Et puis l'Esprit de Dieu fit sur un prophète, prêtez l'oreille, vous tous Judéens, ne craignez pas, ne vous effrayez pas devant cette foule immense, ce combat n'est pas le vôtre, mais celui de Dieu. Descendez demain contre eux, voici qu'ils empruntent la montée de Tzitz, à chercher du côté de Engedi, et vous les rencontrerez à l'extrémité de la vallée, près du désert de Yeruel. Alors, de grand matin, ils se levèrent et partirent pour le désert de Tekoa. Vous voyez, c'est un... on joue de la Bible sur le terrain, alors ce récit-là, voilà, il faut le lire ici. Alors, les Judéens atteignaient le point d'où l'on a la vue sur le désert et allaient faire face à la foule. Mais alors, à ce moment-là, les ennemis qui montaient en coalition se sont entretués, et les Hébreux, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils n'ont plus qu'à ramasser le butin, et puis ils partagent le butin dans une vallée qu'on appelle la vallée de Beraha. Ils disent merci de toute la victoire que Dieu leur a fait remporter. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la vallée de Beraha, parce qu'ils ont rendu grâce de leur victoire. Et puis ensuite, ils reviennent à Jérusalem, et puis il y a une grande cérémonie d'action de grâce dans le temple. Bon, ça aurait manqué si on n'avait pas lu cette histoire au passage.